Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Chine. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par l'actualité de ces dernières semaines qui a été le 20e congrès du Parti communiste chinois.
Oui, ce 20e congrès, il s'est déroulé sous la pression de l'impérialisme américain, qui, la veille ou l'avant-veille du congrès, a publié un rapport désignant la Chine comme principal compétiteur avec les États-Unis et capable de l'affronter à l'échelle internationale. Le jour même ou la semaine précédente, je ne sais plus, ils ont pris un embargo, un quasi-embargo, les Américains, sur la fourniture de puces de haute technologie à la Chine, faisant monter la pression d'un cran. Contre la Chine. Et donc Xi Jinping, dans ce grand théâtre qu'a été le congrès du Parti communiste chinois, il s'est servi de ça pour dire et développer son nationalisme et son militarisme, le renforcer en tout cas, notamment en disant que le problème, l'axe essentiel de la politique chinoise, ça allait être le développement de la sécurité nationale, et ceci en remplacement de ce qui avait été jusque-là le développement économique, un développement économique qui leur pose bien des problèmes depuis plusieurs années en tout cas.
Alors il y a peut-être un aspect plus intérieur qui est celui des luttes de clans menées par Xi Jinping.
Oui, Xi Jinping, depuis qu'il est au pouvoir, et puis même pour arriver au pouvoir, il mène une lutte de clans pour assurer son ascension. Il se sert de la lutte anticorruption aussi, beaucoup pour ça, pour éliminer ses opposants ou les factions concurrentes. Et là, on a eu un coup de théâtre organisé à la fin du congrès quand Xi Jinping a orchestré la sortie forcée sous les caméras, alors que l'essentiel du congrès était quand même à huis clos, de Hu Jintao. Hu Jintao, c'est le président de 2003 à 2013. C'était une manière pour Xi Jinping de montrer qu'il y avait une rupture, qu'il prenait en main toute la politique et que les équipes passées, eh bien, elles étaient remplacées par des gens à lui.
Alors, il y a autre chose avec la Chine qui revient toujours, qui revient dans les discours des médias, des commentateurs, c'est donc la Chine, régime communiste. Donc là-dessus.
Oui, le régime chinois se définit lui-même comme un pays socialiste aux caractéristiques chinoises. Alors en fait, bien sûr, il n'en est rien. C'est un pays capitaliste. C'est un pays où il y a une bourgeoisie aujourd'hui qui est forte de 1 000 milliardaires, de 6 millions de millionnaires, qui accumulent des fortunes gigantesques en exploitant des centaines de millions de travailleurs. Et c'est ça la réalité chinoise. Sur le terrain politique, c'est une dictature. C'est la dictature de cette petite bourgeoisie nationaliste qui a pris le pouvoir en 1949 et qui a réussi à développer une économie dans le cadre impérialiste, mais qui reste foncièrement hostile aux couches populaires et en tout cas qui impose sa dictature contre les couches populaires.
Alors, justement, tu parlais du développement économique de la Chine. Est-ce que vraiment la Chine, on peut dire aujourd'hui qu'elle domine l'économie mondiale et même plus particulièrement qu'elle dominerait presque l'économie américaine comme là aussi les médias le répètent
Oui, non, tout ça, c'est des fadaises. La Chine, elle s'est développée ces 30 dernières années en s'intégrant comme sous-traitant de l'économie occidentale, en devenant l'atelier du monde. Ce qu'a vendu le régime chinois à l'impérialisme, c'est des millions de travailleurs sous-payés, encasernés dans des zones économiques spéciales, où ils bénéficiaient de réductions d'impôts, où ils bénéficiaient d'avantages gigantesques. Et la Chine, elle reste, en tout cas l'économie chinoise, reste aujourd'hui largement dans son rôle d'atelier du monde. Par contre, il est vrai que les entreprises chinoises, elles ont progressé, c'est-à-dire qu'elles se sont servies de cette position pour développer des technologies, pour se développer. Dans l'industrie automobile, par exemple, elles sont capables de concurrencer beaucoup d'entreprises occidentales. Et le problème de l'impérialisme américain, de l'impérialisme occidental, c'est justement de canaliser ce développement pour qu'il lui reste profitable. Parce qu'un nouveau concurrent, c'est des problèmes. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est que la Chine reste un terrain où faire des profits et qu'elle reste à sa place, c'est-à-dire comme une nation subordonnée à l'impérialisme à l'échelle internationale.
Un des aspects aussi de cette réalité économique, de la puissance supposée de l'économie chinoise, c'est le fait qu'elle est assez présente en Afrique. Alors, du coup, impérialisme chinois, pas impérialisme chinois.
Oui, ben, ça fait partie aussi de ce que les régimes occidentaux essayent de nous faire croire, c'est que la Chine est prête à la conquête du monde. Alors quand on regarde plus précisément, on en est bien loin. Alors bien sûr, il y a des entreprises chinoises, l'État chinois, qui cherchent à placer leurs capitaux, qui cherchent à placer leurs marchandises en Afrique ou ailleurs, qui ont passé des contrats juteux pour les bénéfices des entreprises chinoises, voire qui ont surendetté un certain nombre de pays africains ou d'Asie du Sud-Est, ça c'est vrai. Mais ça ne suffit pas à faire de la Chine un impérialisme. Quand on regarde les budgets militaires ou quand on regarde la puissance militaire de l'État chinois sur la planète, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Le budget militaire de la Chine, c'est un tiers de celui de l'État américain, alors que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et la Chine, elle a une base militaire à l'étranger, à Djibouti, alors que les Américains en ont des centaines, et que rien que la France en a 14 en Afrique. Alors la Chine, en fait, elle cherche à défendre ses positions, et les entreprises chinoises, elles poussent leurs pions, mais ils sont sans couder en dessous des Américains et de l'impérialisme occidental en général.
Alors, il y a quelques semaines, les relations entre les États-Unis et la Chine, elles ont à nouveau fait un peu la une de l'actualité mondiale avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et puis cette tension nouvelle entre les deux pays. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette histoire, sur l'histoire de Taïwan, et puis sur cette situation? Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'escalade, d'embrasement militaire dans la région?
Alors, ben, le risque, bien sûr, qu'il existe toujours quand on accumule des bateaux, des navires, des engins de guerre comme ils sont en train de le faire, et les Américains et les Chinois, il y a toujours un risque que ça s'embrase. Mais pour l'instant, Taïwan, ça sert surtout de moyen de pression pour les Américains, pour faire pression sur l'État chinois. Alors, ils le font avec Taïwan, ils le font aussi avec les îlots, des petits îlots qui sont des îlots désertiques en mer de Chine. Et ils cherchent, en fait, par tous les moyens, à contrôler et à endiguer le développement de la Chine. Et Taïwan, ça fait partie de ces moyens de pression qu'ils utilisent. Alors, Taïwan, c'est pas nouveau qu'ils utilisent ça. Hein. Depuis 1949, en fait, quand la révolution de Mao a gagné, ben, le Kuomintang, le régime nationaliste, après avoir écrasé la population de Taïwan dans un bain de sang qui est resté dans les mémoires, et ben, il s'est réfugié sur cet îlot de Taïwan. Et pendant des décennies, Taïwan, ça a été une dictature féroce où les opposants étaient emprisonnés, pourchassés, condamnés à mort, abattus. Mais les États-Unis avaient changé de politique dans les années 70. Par exemple, le siège à l'ONU qui était confié à Taïwan pendant longtemps, eh bien, il est revenu à la Chine dans les années 70. Et c'était une manière de réintégrer la Chine dans leur système. Et là, aujourd'hui, eh bien, ils ont fait volte-face, c'est-à-dire qu'ils se servent de nouveau de Taïwan comme moyen de pression contre l'État chinois. Mais il faut, après, dans les dangers de guerre, il faut se rendre compte de quelque chose. Hein. Ce sont les bateaux américains qui naviguent au large de la Chine. Ce n'est pas les bateaux chinois qui naviguent au large des côtes américaines. Et l'embrasement, il est toujours possible, mais il est probable, en tout cas, que s'il y a une agression, elle vienne du côté des Américains, parce que l'État chinois a beaucoup à perdre dans un déclenchement d'une guerre où il y aurait les États-Unis en face, en tout cas. Maintenant, dans les logiques nationalistes et dans l'escalade guerrière, tout est possible, et on ne peut pas savoir de quoi sera fait l'avenir.
Un autre aspect qu'on a vu aussi, qu'on a pu voir même dans des reportages aux journaux télévisés, qui était assez impressionnant, c'était cette énorme crise immobilière en Chine. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, ben, la crise immobilière, elle dure depuis un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, le développement de ces 10 dernières années en Chine, il repose en fait sur, en grande partie, sur la spéculation immobilière. Après la crise de 2008, l'État a injecté des centaines de milliards, on parle de 500 milliards de dollars, dans le développement des infrastructures et dans l'immobilier. Ça a sauvé non seulement les capitalistes chinois, mais ça a aussi sauvé nombre d'entreprises occidentales qui ont là trouvé des marchés tout nouveaux à satisfaire et qui ont investi il y a 10 ans. Il fallait que toute entreprise digne de ce nom ait son agence française, allemande ou américaine, ait son agence en Chine. C'était la ruée vers l'or chinois. Et donc il y a eu toute une spéculation immobilière qui s'est développée après 2008, avec pour résultat des villes fantômes, des productions d'appartements, d'immeubles entiers qui étaient vendus à crédit mais qui n'étaient pas occupés. Et c'est tout, là aujourd'hui, avec alors les raisons immédiates de ce retournement, c'est la crise sanitaire, mais sur le fond, c'est le résultat de la spéculation. Ils ont produit trop d'immeubles solvables, vendables, et le marché est en train de se retourner et de s'effondrer en Chine. Alors s'il ne s'effondre pas complètement, c'est parce qu'encore une fois, c'est l'État chinois qui a un rôle essentiel en Chine, qui sauve la mise des entreprises chinoises et de ceux qui ont investi là-dedans. La Chine, c'est un pays extrêmement pauvre, en fait. Il y a 600 millions de Chinois qui vivent avec moins de 150 euros par mois. C'est le Premier ministre Li Keqiang qui avait avoué ça en 2020. Peut-être que les parties de la côte ouest sont développées, se sont développées dans le cadre des zones économiques spéciales, des investissements occidentaux, mais toute une grande partie de la Chine reste bien arriérée avec une misère gigantesque. La Chine, c'est aussi des centaines de millions de travailleurs. C'est que l'une des conséquences du développement économique de la Chine ces 30 dernières années, c'est que des centaines de millions de paysans se sont allés vers les villes pour se faire embaucher et forment une classe ouvrière qui est aujourd'hui forte de 300, 400, peut-être 500 millions de travailleurs et qui représente un vrai potentiel pour l'avenir, une vraie force. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'avenir, en fait, il est entre les mains de ces centaines de millions d'ouvriers, de travailleurs qui, depuis 20 ans, 30 ans, se sont retrouvés, regroupés dans des usines organisées par les patrons, par les capitalistes, et qui forment une classe ouvrière qui n'a pas grand-chose à perdre. Cette classe ouvrière, elle a déjà été fortement combative. Il y a eu des grèves dans les années 2000, dans les années 2010, pour les salaires, pour faire augmenter les salaires. Il y a des mobilisations contre la bureaucratie locale régulièrement. La classe ouvrière chinoise, les travailleurs chinois, c'est une classe ouvrière qui se bat et qui sera amenée à se battre contre leurs patrons, contre l'État chinois, mais aussi contre les puissances impérialistes qui veulent les exploiter, leur mettre la main dessus. Et pour nous, ce qui est fondamental là-dedans, c'est que au niveau global, le prolétariat, la classe ouvrière, elle s'est renforcée ces 30 dernières années de 300 ou 400 ou 500 millions de membres et qu'elle forme vraiment la classe d'avenir qui est capable de changer la société non seulement en Chine, mais à l'échelle internationale.